Rue Saint-Guillaume, occupée par 200 à 300 personnes. Des élus, les députés de la France Insoumise, Thomas Porte et Jérôme Legrave, se sont placés il y a quelques minutes entre le cordon de policiers et les militants de la cause palestinienne. Les forces de l'ordre ont procédé à des sommations. Leur intervention est désormais imminente. Sur le réseau social X, la candidate insoumise aux européennes Rima Hassan, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, appelle au soulèvement, une attitude irresponsable selon la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau, qui dénonce le cynisme électoral qui n'autorise pas tout. Les islamo-gauchistes ont transformé Sciences Po en consulat palestinien, accuse de son côté Éric Zemmour, le patron de Reconquête. L'ARCOM va se saisir dès la semaine prochaine de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron dans la campagne des européennes. L'autorité de régulation de l'audiovisuel avait été saisie de cette question par Éric Ciotti après le discours du président de la République hier à la Sorbonne, discours sur l'Europe. Une opération de propagande électorale avait jugé le président des Républicains. Quelle note pour la France ? Deux agences de notation doivent livrer en fin de soirée leur verdict sur l'état de santé financier du pays, Moody's et Fitch. Note qui concerne la note souveraine de la France, des évaluations qui interviennent après les prévisions à la hausse par Bercy des déficits publics pour 2024 et l'abaissement des prévisions de croissance attendues pour cette année. La circulation des trains reprend progressivement sur la ligne à grande vitesse qui relie Paris à l'est de la France. Elle était fortement perturbée depuis le début de l'après-midi après une rupture de caténaire à la hauteur de Châlons en Champagne. Mais pas de retour à la normale avant la fin du week-end, prévient SNCF Réseau. Des travaux complémentaires doivent encore avoir lieu samedi ou dimanche. À l'étranger, le roi Charles III va pouvoir reprendre ses activités officielles mardi. Les médecins du monarque britannique jugent très encourageant l'évolution de son état de santé. Lui qui avait annoncé être atteint d'un cancer début février, il va tout de même poursuivre son traitement, mais le personnel de Buckingham Palace est optimiste quant à sa guérison en cours. La flamme olympique est entre les mains de la délégation française de Paris 2024. Au terme d'une cérémonie symbolique à Athènes, la torche a été remise à Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Elle va prendre demain la direction de Marseille à bord du Belém, où elle doit arriver le 8 mai prochain. C'est le nageur Florent Manaudou qui sera le premier relayeur sur le sol français. Le début dans une petite heure du premier match de la 31e journée de Ligue 1 de football. Nantes est en déplacement à Montpellier. Match important pour les Canaries qui n'ont que 3 points d'avance sur le 16e Le Havre, barragiste à 4 journées de la fin. Europe 1. Il est 20h et presque 3 minutes sur Europe 1. La suite des programmes, c'est le studio des légendes tout de suite avec Jacques Vendroux.
Europe 1.
On est sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Bonsoir, le studio des légendes. 20h, 21h. C'est en direct sur Europe 1 avec Cyril de la Morinerie, Europe 1, Océane Daniel, Alexandre Guingamp, Antoine Motion, Maxime Erignou, Éric Borghini, on va parler arbitrage, Fabien Safanjon, on va parler de l'UNFP, on va parler aussi des demoiselles de Brest qui ont de gros problèmes actuellement, et Marjorie Mayence, ancienne internationale de rugby et consultante rugby, avant le dernier match bien sûr de l'équipe de France de rugby féminine bien sûr. C'est demain, c'est France-Angleterre, c'est à Bordeaux. Et on va parler de foot, de rugby, d'arbitrage. Et comme invité, 20h, 20h40, à partir de 20h40, Chloé Stress-Push, qui est championne du monde de snowboard cross. Et on commence, chers auditeurs, chères auditrices, et on commence avec Cyril de la Morinerie, d'Europe 1, bien sûr, et aussi diacre dans une autre vie de l'église Sainte-Bernadette de Tinqueux. Cyril, vous avez assisté...
Vous connaissez votre géographie en plus, voilà. Parfaitement, c'est juste à côté d'un.
Exactement.
Vous êtes trop fort.
On s'est renseigné. Voilà. Et Cyril, vous avez assisté au match du président de la République. Les pièces jaunes, c'était un plaisir avec le variété. On a gagné 60 000 euros, environ 60 000 euros pour Bernadette Chirac. Mais Bernadette Chirac a créé les pièces jaunes il y a 35 ans et maintenant cette association est dirigée par Brigitte Macron. Alors c'était comment,
C'était incroyable. C'était irréel. Et on se disait ça tout à l'heure en antenne. On n'arrive pas à s'en remettre. Parce que faire jouer autant de stars dans une équipe, c'était deux équipes franchement incroyables, quoi. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Eden Hazard, il y avait des champions du monde
Didier
98,
Deschamps, Didier Deschamps, Laurent Blanc.
Face enfin, Jens Lehmann, qu'on a vu voilà débarquer en début de journée, très sympa. Niskens également pour les amateurs
Johan
de football.
Niskens. Deux finales de Coupe du Monde avec les Pays-Bas.
Avec Cruyff, c'était incroyable. Voilà, donc quand on aime le foot, on a des étoiles dans les yeux et on s'incline et on dit merci aussi. Merci à Jacques, bien sûr. Merci à vous d'avoir organisé ce match. Merci à nos amis Tom Rocheteau et Baptiste Vendroux qui se sont beaucoup donnés. Et puis, c'était un match incroyable parce qu'on avait le président de la République et qui était sur le terrain. C'était la deuxième fois qu'il se produisait avec le Variété Club de France. Et il est venu parce qu'il aime le football. C'est un grand fan de l'Olympique de Marseille et parce qu'il avait envie de passer un bon moment avec ses copains. Et c'est ce qu'il a fait. Et je peux vous dire qu'il était franchement très bien entraîné et affûté parce qu'il a fait un très bon match. Et il est même monté en puissance. C'est-à-dire que peut-être que sur ses premières touches de balle, c'était pas parfait. Mais ensuite, on l'a vu vraiment participer au jeu. Alors, il faut dire qu'il y avait Didier Deschamps à côté de lui, donc on peut pas faire mieux. Que derrière, vous aviez Laurent Blanc et Marcel Desailly, vous vous rendez compte. Et Robert Pires, qui a fait un match stratosphérique. Il est dans une forme olympique, Robert Pires, le champion du monde qu'on a pu interroger. Et on lui a posé la question, parce que moi, je vous dis, en tant qu'observateur, le président de la République a fait un bon match. Il a tiré un pénalty, je dois dire, un très bon pénalty. Et donc, il a marqué pour le Variété Club de France, équipe Jacques Vendroux, qui a donc dominé l'équipe d'Arsène Wenger, 5-3, avec une entrée fracassante d'un gardien de but, l'un des meilleurs du monde, Jacques Vendroux, je crois que c'était pas prévu, il faudra nous raconter ça, et qui a été malheureusement impuissant face à une frappe de Samuel Eto'o. Là aussi, je vous dis que c'est irréel.
C'était mon dernier match, et mon dernier but, eh bien, je l'ai encaissé avec Samuel Eto'o. Voilà, quand même.
C'est quand même pas mal.
Donc, c'est pas mal, quand même, pas mal. Mais bon, merci au président de la République de m'avoir intégré dans son équipe. Cyril.
Est-ce que le président de la République a fait un bon match, Emmanuel Macron ? Eh bien, on va poser la question à Robert Pires. Écoutez sa réponse.
Il a été présent, il a été bon, mais je pense qu'il s'est préparé parce que je l'ai trouvé plutôt plutôt bon dans la course. Un bon petit volume de jeu. En plus, il a réussi son penalty. Donc,
bien tiré, hein ?
Bien tiré. Alors, par rapport à la dernière fois, j'avoue que c'est mieux tiré. Donc, il s'est appliqué, il a choisi un côté, il a marqué. Et puis, surtout, la victoire. La victoire du. Bon, de variété, on va dire. La team Vendroux. Mais disons que. Après, tout le monde le sait, c'est qu'il est là, on est là pour la bonne cause, les pieds jaunes. Je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est toujours que les gens viennent, fassent un don, que l'argent serve pour les personnes justement qui en ont besoin. Donc ce qui est intéressant sur ce genre de match ou d'événement, c'est que les anciens joueurs, tout le monde est là, tout le monde est concerné par la bonne cause. Et en plus, il y en a qui viennent de loin, donc ça prouve que tout le monde est capable de se mobiliser.
Voilà, Océane Daniel, votre avis ?
Bah écoutez, moi Jacques, je m'en remets toujours pas. C'était un jour que je me rappellerai toute ma vie.
Vous êtes consultante, évidemment, dans l'émission du studio de Légende. Oui. Vous jouez régulièrement avec nous. Et donc, vous avez joué contre le président de la République. C'était un moment, inoubliable pour vous.
Ah bah oui, là je peux vous le confirmer, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai joué latéral droit. Quand c'était pas Eden Hazard, j'avais au marquage. C'est Didier Drogba. Quand c'est pas Didier Drogba, c'est Mamadou Niang. Je vous assure, j'ai passé une demi-heure incroyable. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et merci à vous, Jacques, parce que c'est...
Non, mais il n'y a pas que moi.
Il n'y a pas que vous,
non,
c'est des remerciements.
Racontez-moi vos souvenirs, en tous les cas, c'était sympa.
Et je le répète,
on ne va pas rentrer dans le circuit politique, parce que ce n'est pas notre rôle.
Non.
On a gagné près de 60 000 euros pour les pieds jaunes. Et c'est le plus important, c'est tout.
Oui, on joue pour la cause, c'est sûr.
Voilà, c'est tout.
Mais il faut se rappeler tous ces souvenirs dans le vestiaire, tout ce qu'on vit, tout l'ensemble de ce qui s'est passé dans la journée, c'était un moment exceptionnel.
Samuel Eto'o, extraordinaire, personnage extraordinaire. Il est venu de son pays, extraordinaire, du Cameroun. Il est venu pour jouer.
Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger d'ailleurs.
Maxime Mérignon.
Oui, j'étais aussi présent et c'était merci encore une fois Jacques de nous faire vivre des moments comme ça à chaque fois. Mais les joueurs viennent exprès. Enfin, on parle de Christian Carambieux, il vient à chaque fois d'Athènes. Eden Hazard vient de Madrid exprès. Enfin, ils font tous l'aller-retour pour cet événement-là, pour la bonne cause, et quand on les voit se
retrouver
tous...
Et je le répète
tous,
une nouvelle fois, parce qu'il y a des mauvaises langues. Ouais, les joueurs ne sont pas payés. Il y a certaines mauvaises langues, il y a environ 2 mois qui ont commencé à faire courir des bruits en disant qu'il y avait des joueurs qui étaient payés. Ils ne sont pas payés, et je vais même vous dire mieux, C'est pour ça que je veux le dire une nouvelle fois sur Europe 1. Il y a même certains joueurs qui ont payé leur voyage. Voilà, pour assister uniquement à ce match et surtout pour avoir un souvenir incroyable, jouer avec le président de la République française. Je le dis une nouvelle fois. Voilà, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup touché, parce que c'est faux, archi faux.
Et ça depuis 53 ans.
Depuis 53 ans. En tous les cas, le mot de la fin, Océane, sur ce match.
Mon moment historique, journée historique.
Elle aurait pu jouer à tous les postes.
C'est vrai.
Il y avait sa famille, il y avait toute la famille qui était un plaisir. Ah, je vous le dis,
normalement, c'est vous qui posez les questions. Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui, oui.
Comment a réagi le président de la République sur ce moment? Qu'est-ce qu'il en a pensé de ce match? De sa prestation aussi, ce qui vous a un peu débriefé cette rencontre?
On était dans le vestiaire à la fin du match, il était surtout très heureux d'avoir joué, il était très heureux d'avoir mis ce pénalty. Alors évidemment, vous avez certains donneurs de leçons qui disent « le gardien n'a pas bougé », sauf que si vous regardez les images au ralenti, le gardien, il reste sur sa ligne, il ne bouge pas effectivement, et le ballon tiré de la part du président de la République est à ras du poteau droit du gardien de but. Donc même s'il avait plongé d'un côté ou de l'autre, il ne pouvait pas l'arrêter. Il était bien tiré.
Bien tiré.
Et il n'y a pas d'histoire. Voilà. Alors évidemment, les donneurs de leçons, évidemment, dire que le gardien n'a pas bougé, etc. Moi, j'ai joué dans les buts pendant très longtemps. Et ben, je suis pas sûr que j'aurais bougé sur ce penalty. Et vous en parlez avec d'autres gardiens. C'est un beau penalty. Voilà. Et moi, je suis très content d'avoir fait cette soirée. Vous l'avez dit avec mes complices, etc. Et c'est bien. Et c'est bien qu'on en parle sur Europe 1 parce que ça fait quelque part, on se retrouve dans une situation inattendu, mais très agréable. Et il n'y a pas la pression du président de la République avec les officiers de sécurité, etc. C'est sympa, c'est cool. Je le dis sous votre contrôle, Maxime Mérigno.
Oui, oui, totalement. On n'a pas senti la pression. Alors
du
oui,
tout.
Évidemment, on a été contrôlé, oui. Fouillé, etc.
Non, c'est normal,
sur
c'est
le stade,
normal.
Il y a eu un périmètre de sécurité. Heureusement,
chef de l'État qui vient jouer au football, donc c'est pas courant quand même.
Mais il se retrouve avec 22 joueurs sur un grand rectangle vert. Sans forcément de sécurité sur le terrain, enfin tout le monde est autour, enfin voilà, il y a une forme de liberté.
On va refaire un match avant la fin du quinquennat. Il nous l'a promis, il vous l'a dit, vous l'avez entendu, et on va surtout mi-novembre, on va aller au Brésil à l'occasion du G20 avec le Variété Club de France. On va jouer à Maracana contre une sélection des stars brésiliennes managée par Rai. Et ça sera aux alentours du G20 au moment où le président
c'est
de la République.
C'est mythique à Maracana, faut quand même dire.
J'ai joué à Maracana. J'étais capitaine à Maracana, je suis avec le Variété Club de France. J'en ai pris 4. Dans 3 de Roberto Rivellino. Donc je m'en souviens comme si c'était hier aussi. Hein. Bon, allez, on va terminer cette séquence. Allez, affective pour se faire plaisir. On va terminer par un autre rendez-vous le 5 mai rapidement à Poissy. Alors c'est un match qui est hors norme. C'est l'équipe de France des prêtres dont vous occupez, Cyril de la Morinerie.
C'est pas moi qui m'occupe de l'entraînement. Hein.
Oui, non. Enfin, en tout cas, c'est l'équipe de France. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est l'équipe de France des prêtres qui est formée pour la première fois.
Il y en a même une sœur, fan de football.
Il y a 3 sœurs qui jouent à l'occasion de ce match et ils vont jouer avec le Variété. Et dans l'équipe du Variété, il y a un imam, il y a un évêque, il y a
un rabbin.
Et un pasteur.
Et un pasteur, voilà, qui vont démarrer avec nous. Allez-y.
Bah c'est juste formidable parce que c'est l'image que l'on veut renvoyer, l'image à la fois du club, du Variété Club de France, qui est un club laïque, mais aussi de notre République, qui est ce dialogue interreligieux. Et donc, il va y avoir un moment très important aussi avant le début de la rencontre où on va se recueillir en mémoire des victimes de Furiani, puisqu'on va jouer à Sacmay.
Il y aura une prière commune à 14h50. Voilà.
Absolument. Et puis, on va retrouver, enfin, Monseigneur, qui est l'archevêque de Rouen, Lebrun, qui sera l'arbitre ou l'un des arbitres de cette rencontre. Coup d'envoi donné par Michel Drucker et par Rai, ce n'est pas rien. En présence, bien sûr, de Carl Olive, qui est président du Variété Club de France et qui est le député des Yvelines, ancien maire de cette ville de Poissy. Et puis de grands joueurs, notamment Robert Pires, Claude Puel, Olivier Dacour. Enfin, il va y avoir Alain Giresse qui sera également présent. Non, ça va être un très, très grand moment qui aura lieu donc à Poissy.
Et le papa de Mbappé. Voilà. Oui.
Et Wilfried Mbappé qui vous a donné son accord. Ça, c'est formidable.
Confirmé tout à l'heure. Voilà. En tous les cas, ce sont des bons moments.
Et c'est gratuit. Vous venez et voilà, c'est en faveur de League Games.
Voilà. Et vous montrez votre carte d'identité. Donc, ils contrôlent, ils enregistrent et vous pouvez rentrer au stade. Voilà.
Europe 1 est partenaire.
Et Europe 1. Ah oui. Europe 1 est partenaire. D'ailleurs, il y a le logo Europe 1 sur le maillot du Variété Club de France. Ça va encore agacer quelques-uns.
Comme à la grande époque de Nantes.
Voilà, exactement, vous avez tout compris. Bon, on va parler d'un autre sujet, l'arbitrage. Vous savez que c'est croustillant l'arbitrage, mais moi je voudrais, avec Éric Borghini qui est avec nous et qui régulièrement est sur notre antenne, c'est inadmissible. Stéphanie Frappard, qui a d'ailleurs arbitré le match de mercredi dernier. Stéphanie Frappard n'est pas sélectionnée pour les Jeux. Ça, ok, c'est le problème du CIO. Et
surtout pour l'Euro en Allemagne, il n'y a aucune femme. L'UEFA a sélectionné aucune femme. Je veux dire, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est pas bien, parce que Stéphanie Frappart, même si elle a peut-être connu une ou deux boulettes ces derniers temps, reste la meilleure arbitre du monde féminine, et que les femmes ne soient pas associées à cet euro, c'est scandaleux. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère, Eric Borghini?
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir
c'est
à
scandaleux,
tous.
Scandaleux.
Oui, Jacques, je partage votre courroux, votre indignation.
Ne trouvez pas des circonstances atténuantes, hein, je vous le demande tout de suite, hein, parce que qu'une femme ne soit pas sélectionnée, c'est l'une des meilleures arbitres du monde, elle n'est pas sélectionnée parce que soi-disant elle aurait fait une ou deux boulettes ces derniers temps, mais c'est nul, nul de la part de l'UEFA, c'est nul, voilà, je le dis.
Jacques, ce qu'il faut dire, ce qui est très regrettable, c'est bien sûr que Stéphanie ne soit pas sélectionnée alors que, comme vous l'avez dit, c'est une des meilleures arbitres au monde, si ce n'est la meilleure arbitre féminine du monde. Donc ça, c'est évidemment très regrettable. Mais ce qui est encore plus regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de femme du tout.
C'est ce que je me suis permis de vous dire. Aucune.
Même pas une quatrième arbitre. Parce que l'UEFA aurait pu... Bon, admettons, ils veulent pas de femmes au centre parce que, bon, Rossetti et la commission d'arbitrage de l'UEFA, il faut savoir qu'ils ne prennent absolument aucun risque.
Mais qui c'est? Qui les désigne? Monsieur Rossetti?
C'est Monsieur Rossetti.
Qui c'est Monsieur Rossetti? Qui c'est Monsieur Rossetti? Personne ne connaît. Personne ne connaît.
Non, Jacques, n'exagérons pas. Rossetti, ça a été un très grand arbitre international.
Ah, il m'a pas marqué, hein, je vous le dis tout de suite, il m'a pas marqué. Hein. J'en garde pas un souvenir impérissable, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Il est président de la commission des arbitres de l'UEFA, et si vous voulez, c'est lui et sa commission qui sélectionnent les meilleurs arbitres d'Europe, évidemment à partir des campagnes européennes qui sont en cours. Donc évidemment, il y a 19 arbitres sur toute l'Europe, hein, qui sont sélectionnés, ils prennent les meilleurs, et ils ne prennent, je le répète, aucun risque.
Mais ok, mais ça veut dire quoi? On prend un risque avec Stéphanie Frappart? Enfin, je sais pas, j'hallucine.
Non, c'est pas ça, Jacques. Ça veut dire qu'ils sélectionnent les arbitres européens qui, d'après leurs critères à eux de l'UEFA, ont fait les meilleures prestations au cours de la dernière campagne européenne. Bon, malheureusement, Stéphanie, apparemment, n'est pas dans ce groupe. Néanmoins,
je confirme. Hein. Elle envisage de partir en vacances pendant l'euro, donc je vous confirme bien.
Ce que je regrette, c'est que elle n'ait même pas été sélectionnée, allez, comme quatrième arbitre. Parce que, admettons, ils considèrent qu'elle n'a pas le niveau pour faire un match de 7 euros. Très bien, mais elle peut au moins être présente dans le groupe des arbitres comme quatrième arbitre. Pourquoi? Mais parce que ça envoie un signal. Un signal, tout, vous savez... Cette année, nous avons franchi le cap des 25 000 arbitres, dont 1425 arbitres féminines, en hausse de 12,38% par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qu'on dit aux gamines qui viennent à l'arbitrage? On leur dit, écoute, viens à l'arbitrage, tente le coup, et peut-être, si tu as les qualités, tu seras comme Stéphanie Frappart. Tu vas arbitrer de la Champions League, tu vas arbitrer en Coupe du Monde féminine, tu vas faire les Jeux Olympiques, ce qu'a fait Stéphanie. Et là, si vous voulez, ça met un coup d'arrêt à cette politique que, par ailleurs, nous continuons à mettre en œuvre chez nous, ici en France. Nous avons créé, jeudi dernier, nous avons officiellement constitué la Ligue féminine du football professionnel. Nous avons désigné Jean-Michel Aulas comme premier président de cette Ligue. Nous faisons d'énormes efforts pour encadrer la D3, la D2 et la D1 Arkema.
Je suis d'accord. Eric, je sais que vous êtes un merveilleux avocat. Sauf que vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. C'est vrai que actuellement, à la Fédération française de football, vous faites évoluer le foot féminin. Il n'y a rien à dire. C'est même pas discutable. Vous faites ça très bien. Sauf que moi, je trouve, pour conclure, scandaleux l'absence de femmes à cet euro. Voilà, c'est tout.
Voilà.
C'est tout. Voilà.
Si l'on compare, Jacques, je me permets, à la Coupe du Monde, donc c'est la décision de la FIFA, la dernière Coupe du Monde, il y avait 6 femmes arbitres qui avaient officié ce mondial, dont Stéphanie Frappart.
Non, mais c'est pas bien. En tous les cas, merci Eric Borghini. Oui. Merci d'être intervenu sur Europe 1. On vous attend régulièrement, hein, vous le savez. Hein.
Merci.
Je vais demander un petit commentaire sur cette affaire, entre guillemets, Frappard, Cyril de la Morinerie.
Moi, je suis très triste parce que Stéphanie Frappard, d'abord, c'est l'excellence du sifflet français. Elle a battu tous les records en étant la première femme arbitre pour des matchs de Ligue des Champions, pour cette Coupe du Monde. Elle était au Qatar. Donc, je suis triste et puis je suis triste pour le football également parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, ne pas avoir d'arbitre féminin, de femme arbitre lors d'un euro, on a, voilà. Alors, je sais pas si on peut faire la parité, pourquoi pas, mais au moins qu'on ait quelques arbitres et notamment, je pense, parce que c'est souvent c'est des trios arbitrales, ben, je pense à celle qui accompagne aussi Stéphanie Frappard, c'est difficile à vivre. Et surtout que franchement, elle n'a pas fait des erreurs qui méritaient qu'elle ne soit pas à l'euro.
Océane Daniel, rapidement.
Moi, je pense que c'est clairement une question qu'on doit se poser. Pourquoi ne pas avoir mis de femmes? Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On dit que Stéphanie Frappard a fait des erreurs. Mais tous les arbitres font des erreurs tous les week-ends. Et ils ne sont pas forcément remis en cause. Donc pour moi, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas avoir mis de femmes et pourquoi pas avoir mis Stéphanie Frappard, qui est une des meilleures arbitres du monde?
Maxime Rignoux.
Après, si elle est prise, c'est pour ses compétences, pas parce qu'elle est une femme.
Rien à voir, ça.
Ben voilà.
Elle est compétente.
Voilà.
Homme ou femme, elle est compétente.
En fait,
on est d'accord.
Contrairement aux joueurs, les arbitres féminins ou masculins sont dans le même classement. Ils sont comparés à la même échelle.
Absolument.
Et il y a une part d'égalité, une parité sur les jugements qu'il peut y avoir. Donc si elle n'a pas été prise, ce n'est pas parce qu'elle est femme, c'est une femme, c'est parce qu'ils ont jugé qu'elle était moins compétente.
Et ben c'est nul. Antoine Motion.
Moi je suis pas spécialement triste pour Stéphanie Frappard. Je veux dire, s'ils sont pris sur leur niveau, ça peut se comprendre. Mais après qu'il n'y ait pas d'arbitre féminin quand même assez compétente, qu'on nous dise que c'est pas possible d'en trouver des arbitres féminins qui puissent aller à l'Euro, ça c'est inadmissible, on peut pas l'entendre, c'est inaudible.
Alexandre Guingamp.
Ouais, il y a au-delà de la symbolique de ne pas avoir de femmes, moi j'aimerais bien connaître la grille entre guillemets d'évaluation de l'UEFA qu'ils utilisent précisément. Et j'aurais été curieux.
C'est secret.
C'est un peu ma curiosité. J'aurais aimé connaître exactement comment il est jugé, sur quels critères, etc. Parce que ça aiderait pour ce cas précis, mais je pense que ça aiderait aussi plus globalement dans le jugement qu'on apporte nous au quotidien sur les arbitres.
Le studio des légendes, 20h-21h, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. Avec en ordre d'apparition à l'antenne et sur la pièce de théâtre que nous tournons actuellement pendant une heure, Cyril de la Morinerie, Éric Bourguigny, Robert Pires, que vous avez entendu, Océane Daniel, Alexandre Guingamp et Antoine Motion, Maxime Rignoux, Fabien Safanjon, que vous allez entendre dans quelques minutes, car il appartient à l'UNFP, et Marjorie Mayence, Canal+, Martin Lange, bien sûr, et Chloé Trespoche. À tout de suite.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte.
Europe 1, la table des bons vivants.
Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On en parle avec nos agriculteurs. La chef Stéphanie Lequellec nous rejoint pour le plat du jour. Ancienne candidate et aujourd'hui jurée de l'émission Top Chef, nous profitons de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Des petits pois, du tarama, de jolis vins, il ne manque plus que vous.
La table des bons vivants.
Rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1.
On est sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de me le dire.
Jacques Vendroux.
Toujours en football. On va revenir rapidement sur les trois matchs de mercredi dernier, parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de débriefer. Match important qui ont été décalés à cause de la Coupe d'Europe. Le PSG est allé gagner à Lorient 4-1. Marseille-Nice de partout. Et vous le savez, Monaco a battu Lille 1-0. J'écoute vos commentaires et je commence avec Cyril de la Morinerie. Un patchwork sur les trois matchs.
Alors un patchwork, Lorient-Paris-Saint-Germain, pas de surprise. Les Parisiens sont imposés dans l'avion. Ah non, mais pas de surprise, Océane qui...
Mais Océane prend de plus en plus d'importance dans l'émission, donc là maintenant elle va interrompre tout le monde.
Non, mais j'adore
Océane, calme-toi. Voilà, on y va, Cyril Lamorinerie.
Lorient-PSG, le PSG s'impose 4-1, festival de Dembélé et de Mbappé, Mbappé 42e et 43e but, toute compétition confondue, meilleur total de sa carrière. Je veux dire que c'est un match... totalement classique du PSG, avec vraiment un Mbappé qui nous a fait un petit pont, qui a été absolument incroyable, Dembélé aussi, qui continue de marquer trois matchs où il marque de suite. Et ils sont revenus dans l'avion et ils n'ont pas été sacrés parce que Monaco a battu Lille et les Parisiens seront peut-être sacrés demain soir. L'OM Nice de partout, bien les Marseillais avaient pris ont été menés au score et finalement ont réussi à marquer deux buts avant que Nice ne marque. Ça a été un match un peu compliqué pour l'arbitre, monsieur Pignard, Jérémy Pignard. Il y a eu une expulsion.
Il n'a pas été très bon.
Non, parce qu'il a expulsé effectivement Moubagna et c'était franchement pas nécessaire. Il y a eu un pénalty un peu imaginaire. Donc voilà. Mais d'ailleurs, Eric Borghini l'a reconnu, que c'était pas un très grand match. Et ensuite, le dernier match, je crois que c'était Monaco-Lille. Et là, c'était
Monaco-Lille 1-0.
1-0, but de Fofana. Formidable but de Fofana. Et Monaco, là, qui a fêté ce match presque comme s'ils avaient gagner la Ligue des Champions. Je pense que là, ça sent bon pour Monaco pour la deuxième place.
Océane Daniel, allez, oui. Sur les trois matchs, un petit commentaire.
Alors pour Lorient PSG, oui, ce que je veux souligner, c'est Luis Enrique. Il n'a pas aligné la même équipe du match dernier contre Lyon, avec 9 changements, mais on voit toujours autant d'efficacité, et je pense que c'est ce qui manquait à cette équipe du PSG, d'avoir une équipe soudée, tous les joueurs se sentent concernés, et c'est important, tous les joueurs se sentent importants. Concernant Monaco-Lille, c'était un match plutôt plaisant à regarder. Monaco a pris les devants en marquant avec un but de Fofana de loin. Ils sont à 5 points d'avance sur Brest qui est 3e, donc ça sent bon la Ligue des Champions pour eux.
Et on va s'adresser aussi à Alexandre Guingamp.
C'est sur le match de Lorient, il y a eu ces changements de Luis Enrique, il a beaucoup fait tourner, il compte faire d'ailleurs tourner encore.
Mais il a raison quelque part.
Face au Havre, il y a le match de Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine, il est quasi champion donc on le comprend tout à fait. Non, victoire classique du PSG, pas grand-chose à dire, ils sont quasiment champions. Ce qui a retenu mon attention surtout sur le Monaco Lille, c'est cette performance de Monaco et je trouve plus globalement sur la saison, la gestion de l'entraîneur Adi Hütter, il avait que ça à jouer entre guillemets, que le championnat. Aujourd'hui Monaco, je pense, va terminer deuxième et avec toute la concurrence qu'il y a eu, je trouve qu'il a réussi à bien gérer son groupe tout au long de la saison. Il n'y a pas eu de problème d'ego ou quoi que ce soit, donc je tire mon chapeau à ce niveau. Maintenant, je voulais terminer avec Marseille-Nice et Aubameyang, malheureusement qui nous a fait vibrer sur la dernière action avec ce piqué, la barre. J'aurais tellement aimé qu'il la mette, franchement c'était un sacré moment.
Antoine Motion.
PSG Lorient, on a eu une promenade de santé sans surprise du PSG avec ce duo Dembélé Mbappé qui commence de plus en plus à se révéler. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on avait vu sur leur première sélection commune en 2017. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match France-Angleterre où il y avait eu 3-2.
Très bien, très bien.
Et là, on avait eu des espèces d'automatismes, une capacité à se projeter vite, à éliminer également très facilement. Et ça m'a rappelé vraiment ce match. Et depuis le Barça, il y a un déclic, Dembélé qui se met à déborder avec sa patte gauche comme Ariane Robben aux grandes heures, donc vraiment un PSG facile et Lorient un peu inquiétant sur la fin de saison. Sur les autres matchs, non, ça.
Allez-y.
Je voyais non de la tête. Oui, eh ben Marseille a été valeureux et ils le sont, ils l'ont montré déjà contre Benfica en Europa League et ça fait plaisir à voir parce qu'à 10 contre 11 c'était pas joué d'avance et ils auraient pu gagner 3-2 et ça c'était exceptionnel. Et pour finir, Monaco Lille, on a eu un Lucas Chevalier, vous qui aimez les gardiens, Jacques. On a eu un Lucas Chevalier exceptionnel qui a tenu la baraque pour Lille.
Mais c'est le meilleur gardien français.
Ah oui, il a été fantastique. Arrêtez, et honnêtement, ça aurait pu finir à 3-0 pour Monaco.
C'est le meilleur gardien français. Voilà.
Il y aurait eu 3-0 pour Monaco, c'était pas choquant.
En tous les cas, Maxime Hérignou, allez, on conclut avec vous sur les analyses de ces trois matchs.
Rapidement, moi, je voulais faire focus sur Monaco. On les voit avancer dans l'ombre depuis le début de saison. On parle beaucoup de Lille, de Brest, d'équipes comme ça qui jouent bien au foot. Et au final, Monaco va sûrement finir dauphin de ce championnat. Ils ont fait l'opération et je pense le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe cette saison a grandement joué sur cette fin de saison. On le voit, hein, Lille, on les a sentis un peu émoussés sur ce match. Sur l'OM, comme l'ont dit mes collègues, Marseille a trouvé les ressources pour aller chercher l'égalisation. Ils ont joué à 10 pendant une grande partie de la rencontre suite à une erreur d'arbitrage de Jérémy Pinard qui n'arbitrera pas sur cette journée de championnat. On a retrouvé un Klos auteur d'un magnifique but après 3 semaines d'absence. Voilà des éléments de positifs pour l'OM et Paris, bah voilà, qui sera champion.
Qui déroule.
Voilà. Tout simplement.
La 31e journée de Ligue 1, ça commence ce soir. Montpellier-Nantes, on va y revenir. Il y a Metz-Lille, il y a Clermont-Reims, il y a Rennes-Brest, il y a Marseille-Lens, il y a Lyon-Monaco, il y a Strasbourg contre Nice, il y a Lorient contre Toulouse et le Paris Saint-Germain, contre l'équipe du Havre. Faut être clair, si le PSG gagne demain soir contre le Havre, le PSG sera champion. Je voudrais avoir votre analyse justement sur ce Montpellier-Nantes de tout à l'heure. Montpellier n'est pas encore sauvé et Nantes est loin d'être sauvé. Cyril de la Moridonnerie.
Alors, écoutez, cette équipe de Nantes, c'est effectivement assez compliqué, avec une équipe qui revient un petit peu avec 2 victoires, notamment Nice et Le Havre, mais c'est encore 4 finales, disait Antoine Camboire, l'entraîneur, à réaliser, avec Mohamed et Abline qui seront en attaque sans doute ce soir face à une équipe de Montpellier. Montpellier 12e, 36 points, donc avec 8 points d'avance sur Le Havre qui est barragiste, une équipe de Montpellier qui a envie de bien terminer, évidemment, même si sur ce match-là, il faudra noter que les supporters nantais sont interdits de déplacement et donc ne pourront pas être présents. Nantes qui aura un calendrier assez difficile, puisque pour terminer, pour se sauver, ils iront à Brest, il y aura un match contre Lille et un dernier match à Monaco. Donc pour les Nantais, le match est extrêmement important.
Océane Daniel.
Oui, Montpellier qui est 13e, ils sont sur une bonne dynamique avec 3 victoires et 1 nul sur leurs 4 derniers matchs. Ils reçoivent Nantes qui est 14e, qui a besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation. Ça va pas être un match facile, pour les Nantais, sachant que Montpellier n'a pas gagné à domicile, n'a gagné que 3 matchs à domicile cette saison. Ils vont vouloir l'emporter à la Mosson et être quasi sûr d'être en Ligue 1 l'année prochaine.
Alexandre Guingamp.
C'est pour Nantes, vu le calendrier, comme l'a rappelé Cyril, je pense que c'est le moment ou jamais de prendre encore des points, les précieux points pour le maintien, sinon ça risque d'être difficile. Point positif pour Nantes, c'est qu'ils jouent à l'extérieur. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Nantes cette année a une sorte de malédiction en Ligue 1, ils sont sur 9 défaites à domicile d'affilée. Toutes compétitions confondues, donc c'est un petit peu l'élément positif sur lequel ils peuvent se raccrocher.
Antoine Motion.
La Nantes doit absolument gagner parce que derrière, s'ils remportent pas contre Montpellier, ils doivent rencontrer des équipes qui vont se battre pour la Ligue des Champions. Brest, Lille, Monaco. Donc ça va être une toute autre affaire que contre Montpellier. Et Montpellier est quasiment maintenu maintenant, donc c'est le moment ou jamais pour Antoine Comboiré et son équipe de faire la différence.
Maxime Rignot.
Oui,
Montpellier,
sauf que Montpellier, en gagnant, est quasiment assuré du maintien.
Non, mais s'ils gagnent ce soir, ils sont sauvés.
Voilà.
Quoi qu'il arrive.
Et voilà. On sait que Michel Darzacarian,
la famille Nicolas pourrait fêter bientôt, en octobre, je crois, le 50e anniversaire du club de Montpellier.
Bel anniversaire.
Vous savez tout.
On embrasse la famille Nicolas.
Voilà, vous avez raison.
Et Michel Darzacarian, qui est un ancien de la maison nantaise,
formé à Nantes. Il a entraîné Nantes.
Et il a entraîné Nantes, mais il est pas en odeur de santé avec la famille Kita. Donc je pense qu'il voudrait tout faire. Et a priori, contre la victoire à Reims le week-end dernier de Montpellier, la prime n'avait pas été donnée, la double prime n'avait pas été donnée aux joueurs. Et dans l'équipe cette semaine, il est sorti qu'une triple prime pourrait être donnée en cas de victoire contre Nantes pour potentiellement valider ce maintien. Bon, ça n'a pas été confirmé et seul Laurent Nicolin prendra cette décision après ce match.
Alors toujours en football, une drôle d'histoire à Brest. L'équipe de Brest féminine a adressé une lettre ouverte, donc à tout le monde, pour faire savoir ses conditions de jeu inacceptables. Et évidemment, le football féminin, l'équipe de Brest est en grande difficulté. Cette équipe de Brest féminine joue en Détroit. Et avec nous, nous avons un représentant de l'UNFP. Vous le savez maintenant, la création de la Ligue professionnelle de football. Donc il y a un syndicat pour les joueurs et même pour les joueuses. Et nous avons avec nous Fabien Safanjon. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Merci. Alors, c'est quoi l'histoire brestoise ? Expliquez-moi, parce que c'est rare quand même.
En fait, l'histoire brestoise, on l'a presque découvert tous ensemble, puisque nous, les premiers, on n'avait pas été contactés en amont par les joueuses pour faire état un petit peu de leurs revendications. Donc, on a pris connaissance par l'intermédiaire de leur lettre ouverte sur les réseaux. Et donc, dès le lendemain matin... On a essayé de prendre contact avec des joueuses et puis surtout, personnellement, j'ai pris contact moi avec le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, afin de comprendre un petit peu la situation telle qu'elle était exposée.
Donc ils ont de mauvaises conditions d'entraînement, pour faire simple.
Alors,
notamment.
C'est pas spécialement là-dessus qu'elles sont. Alors oui, évidemment, elles l'ont écrit, mais C'est surtout sur des choses qui leur avaient été contractualisées et qui n'ont pas été respectées. En tout cas, c'est ce qu'elles nous ont fait remonter. Elles vont d'ailleurs, à ce titre, nous faire un audit précis des choses qui apparemment ne seraient pas respectées. Mais en tout état de cause, il faut savoir aussi que les filles sont sous l'égide de l'association. Et quand j'ai eu Greg Lorenzi, il apprenait comme moi un petit peu les méfaits de ce qui venait de se passer. Donc il a tout de suite pris les choses en main.
J'imagine, Fabien, que l'UNFP prend les choses en main aussi, évidemment.
Ah ben, évidemment, on est complètement dans notre rôle. Donc on suit ça, mais bon, pour avoir de bons rapports avec le Stade Brestois, on a en bonne intelligence pris la mesure de ce qu'il y avait à faire. Et Greg Lorenzi s'est engagé, parce qu'ils font les choses bien et c'est un club professionnel, de voir ce qui s'était passé, parce qu'il n'était pas sincèrement au courant, et de faire un audit interne et de régler tous les problèmes qu'il y aurait s'il y avait des engagements écrits qui n'auraient pas été respectés.
Voilà, sur Europe 1, merci. En tous les cas, sur Europe 1, on voulait faire un petit clin d'œil donc, à cette équipe féminine brestoise qui joue en Détroit, qui est un peu en difficulté. Elles ont eu raison, les filles, de faire cette tête ouverte, comme ça, ça va faire bouger les choses. Le rugby, l'équipe de France féminine, c'est France-Angleterre. C'est demain, 17h45 à Bordeaux, au stade Jacques Chaban-Delmas. La France est invaincue. Elle a battu l'Irlande, 38-17. L'Écosse, 15-5. L'Italie, 38-15. Et elle a battu le Pays de Galles, 40-0. Merci d'être avec nous, Marjorie Mayence, internationale, 53 sélections en équipe de France et consultante rugby du groupe Canal+. Bonsoir Marjorie. Comment se présente le match de demain? Il est passionnant, hein. La France peut gagner.
Passionnant, oui, bah alors on espère, même si les Anglaises partent quand même largement comme favoris. Elles ont gagné, je crois, sur les derniers France-Angleterre, les 12 derniers matchs. Mais l'équipe de France est en reconstruction et on sent une bonne dynamique dans cette équipe.
En tous les cas, est-ce qu'elle peut gagner? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que la France peut gagner demain contre l'Angleterre? Oui.
Ouais, bien sûr. Oui, la France peut gagner. On a des joueuses là qui sont individuellement très très bonnes, que ce soit techniquement, physiquement. On sent qu'aujourd'hui, il manque encore un peu de liant dans l'équipe, un peu d'expérience collective, mais individuellement, elles sont capables de faire la différence, et surtout si mentalement elles flanchent pas, évidemment, la France peut vaincre les Anglaises avec un bon public et un record d'affluence prévu à Chaban-Delmas.
33 000, je crois, hein.
Le stade est plein. 27 000, mais écoutez.
Je crois que c'est 33 000, d'après ce que j'ai aimé comprendre. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que le mardi 14 mai, il y a un match qui fête le centième anniversaire du stade Jacques Chaban-Delmas. Le stade est plein et on m'a dit tout à l'heure au téléphone que le stade demain à 17h45 est également plein pour les filles. C'est bien ça, moi, je trouve.
Eh bien, super nouvelle. Ouais, je m'étais arrêté à 27 000. Nouveau record battu. Donc, ça va être une grande journée.
Merci en tous les cas, Marjorie. Et vous revenez quand vous voulez sur Europe 1. Merci de votre analyse. Et à très bientôt, Marjorie Mayence, internationale, 53 sélections en équipe de France, consultante rugby du groupe Canal+. Et en tous les cas, elle nous a présenté ce match qui s'annonce très passionnant entre la France et l'Angleterre. C'est demain, 17h45, c'est un match en tous les cas qui est formidable et en tous les cas qui va intéresser tout le monde. Nous allons parler maintenant, pour conclure cette émission, de snowboard. Maintenant, entretien exceptionnel avec la Française Chloé Trespoche, vainqueur en mars dernier de la Coupe du Monde de snowboard. Elle est au micro de Martin Lange. Mais avant, comme c'est la tradition, petite page de pub, c'est normal. Le studio des légendes, 20h-21h, avec Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé, et en ordre d'apparition, Cyril de la Morinerie, Éric Borghini, Robert Pires, Océane Daniel, Alexandre Guingamp, et Antoine Motion, Maxime Erignoux, Fabien Safanjon de l'UNFP, Marjorie Mayence de Canal+, Martin Lange, et dans quelques secondes, Chloé Trespoche. À tout de suite, chers amis, à tout de suite.
Bonjour, c'est Virginie Giraud sur Europe 1. Ce week-end, je vous entraîne au cœur des grands procès de l'histoire. Galilée, condamné pour avoir osé dire que la Terre tourne autour du Soleil. Jeanne d'Arc, brûlée vive pour sorcellerie alors qu'elle a sauvé la France. Al Capone, emprisonné à Alcatraz pour ne pas avoir payé ses impôts.
Au cœur de l'histoire, week-end spécial grand procès.
Je vous attends demain et dimanche à 15h sur Europe 1 et quand vous voulez en podcast sur toutes les plateformes, le site
et sur l'appli Europe 1.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Or réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Le studio des légendes. Dans quelques secondes, eh bien, on va parler snowboard avec un entretien exceptionnel avec la Française Chloé Trépoche. En tous les cas, c'est une grande championne. Elle est sur Europe 1 grâce à Martin Lange. Et je voulais vous dire une nouvelle fois, j'adore le générique. Marie-Josée Pérec, Wendy Renard, Yannick Noah et Zinedine Zidane. Et demain, n'oubliez pas, demain, 20h-21h, un entretien exclusif avec Alain Giresse qui va nous parler de son immense carrière. En tous les cas, c'est passionnant, c'est émouvant et c'est aussi amusant. À tout de suite.
Bonsoir Chloé Trépoche.
Bonsoir.
Vous êtes l'invité du Studio des Légendes ce soir, présenté par Jacques Vendroux. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes snowboardeuse, spécialiste du snowboard cross. Déjà, toute première question très simple Chloé, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est que le snowboard cross?
Alors le snowboard cross, c'est une piste avec des virages relevés, des sauts, plein de modules. On est 4 par 4, c'est le premier arrivé en bas, donc c'est assez excitant parce que c'est une course d'une minute 30. Il y a de la confrontation directe, donc ouais, voilà, le but du jeu c'est d'être stratégique, rapide, engagé, et puis faire sa place auprès des autres.
Alors, je le disais, vous êtes snowboardeuse, comment on en arrive à cette spécialité du snowboard cross? Vous avez commencé par du freestyle, par de la piste, comment on découvre cette spécialité?
Déjà, j'ai eu la chance de grandir en montagne, à Val Thorens, donc un milieu très propice au sport de glisse. J'ai commencé le snowboard parce que ma famille en faisait. Donc, mon grand frère m'a mis assez vite sur une planche et j'ai pris ce plaisir des sensations, de l'adrénaline, des sauts et du fait d'être sur une même piste avec d'autres concurrentes. Après, jeune, j'ai tout fait comme sport, en snow, toutes les disciplines pour être vraiment polyvalente. Et puis, au début, on touche à tout. Et puis après, en grandissant, on nous demande de nous spécialisé pour chercher la performance, parce que entre le freestyle, le géant et le border cross, il y a des similitudes, mais c'est quand même assez différent. Donc pour être bon, il faut se spécialiser.
Vous, ce qui vous a séduit, c'est la confrontation avec vos adversaires, c'est ça qui vous a l'excitation du one to one, j'ai envie de dire.
Oui, il y a vraiment ce côté-là. Il y a la vitesse aussi et les sauts, l'adrénaline qu'on a au travers de ces modules. Mais c'est vrai que le fait de voir ses concurrents autour, moi, ça me stimule et ça me crée vraiment une envie d'aller plus vite et de me dépasser beaucoup plus que si j'étais toute seule dans le parcours.
Alors si vous êtes avec nous ce soir, Chloé Trépoche, c'est que vous avez réussi un exploit, j'ai envie de dire. Vous avez remporté cette année, en 2024, le Gros Globe de Cristal. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le Gros Globe de Cristal? Ça, c'est propre à toutes les disciplines, que ce soit en ski, en snowboard, tous les sports d'hiver. Le Gros Globe de Cristal, ça récompense, j'ai envie de dire, le skieur ou le snowboarder ou la snowboardeuse, dans votre cas, la plus régulière de la saison, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est une grande valeur sportive parce que c'est celui qui gagne le classement général de la Coupe du Monde. Donc là, en l'occurrence, on avait 12 étapes. Donc c'est un challenge du quotidien parce qu'il y a ce maillot jaune de leader à garder de la première étape en décembre jusqu'à la dernière fin mars, avec des parcours très différents, des lieux très différents, des villes et des pays différents. Et ouais, il y a toute cette gestion de stress, cette gestion de l'adaptation des parcours. Donc être bon tout un hiver et remporter ce Globe de Cristal et être numéro un mondial, c'était vraiment un moment très fort pour moi.
Alors en plus de ce Gros Globe, vous avez quand même remporté 3 étapes de Coupe du Monde. Vous l'avez porté à partir de quel moment, ce dossard jaune de leader? Vous avez dû le conserver? Ça a été une vraie lutte face à vos concurrentes?
J'ai gagné la première étape qui était à domicile aux Deux Alpes en France. Donc j'étais maillot jaune dès la première étape. Donc au début on est loin de la fin du classement, donc il y a un peu moins de pression. C'est que du plus. Je l'ai gardé jusqu'à quasiment la fin de saison et je l'ai perdu sur une étape en milieu de saison à Montafon. Et en fait j'ai eu un petit trou aussi dans cette saison où j'ai enchaîné trois courses un peu moyennes. Et là j'étais un peu submergée par les doutes aussi et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu du globe de cristal, c'est de réussir à se remobiliser, à retrouver l'agressivité que j'avais en début de saison et de pas rentrer dans cette optique d'assurer ou d'avoir peur de perdre le maillot. Non, faut garder l'agressivité, l'intensité, et donc c'est là où l'importance du staff aussi nous remet sur la bonne voie, et j'ai retrouvé vraiment cette intensité, cette agressivité sur la fin de saison pour me permettre de le récupérer assez vite. Et puis c'était très tendu niveau points, on était à quelques points à chaque fois avec la deuxième, mais je restais leader et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Donc.
Et vous obtenez ce globe de cristal lors de la dernière étape. Quel sentiment vous habitez à ce moment-là? Une joie immense. Est-ce que c'est comparable à une médaille olympique? On en parlera un peu plus tard. Vous avez aussi gagné des médailles olympiques. Est-ce que c'est une victoire similaire ou le fait que ça soit au long cours, c'est différent?
C'est différent parce que là, le fait de le gérer sur toute la saison, j'ai l'impression que c'est plus d'endurance mentale. Rester vraiment dans cette dynamique de performance pendant 4 mois, c'est hyper challengeant mentalement. Que les jeux, c'est plus un sprint. Hein. Moi, c'est en une journée. Il faut que je sois bien en une journée. Bien sûr, ça se prépare sur 4 ans. La préparation est longue, mais l'effort et la pression mentale, elle est très intense sur une journée. Donc, elle est moins changeante. On sait que si on se réveille le matin, qu'on est bien. Enfin, en tout cas, on a les solutions, les outils pour le gérer sur 24 heures. Là, la saison est longue. Donc, c'est différent. Mais je pense que la valeur sportive est presque encore plus grande sur un globe de cristal parce qu'il y a cette diversité d'étapes qui fait qu'il faut être l'athlète polyvalent qui sera bon du début jusqu'à la fin.
On est avec Chloé Trespeuch, invitée du studio des légendes, snowboardeuse, spécialiste du snowboard cross, vainqueur du gros globe de cristal cette année, double médaillée olympique. Chloé, vous venez d'avoir 30 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait plus de 10 ans que vous êtes sur le circuit de Coupe du Monde. Est-ce que vous parliez de ce bras de fer presque mental pour tenir toute une saison? Est-ce que cette maturité, elle était importante pour enfin réussir à gagner ce gros globe de cristal?
Oui, je pense que les années d'expérience m'ont aidé à remporter ce globe de cristal. Ça fait des années que je suis proche, mais que je ne l'ai pas. Après, c'est un travail de fond aussi. J'ai progressé sur l'aspect technique, sur le matériel. Je pense qu'avec mon staff, on se connaît mieux aussi, donc on prend peut-être de meilleures décisions. Donc, de toute façon, le sport de haut niveau, c'est une multitude de détails. Mais je pense que l'expérience fait que la gestion mentale est plus facile, même si elle est difficile. J'ai développé plus d'outils pour répondre aux problèmes qui arrivent tout au long de la saison.
Qu'est-ce qu'il y a comme problème, par exemple? quel type de problème on est confronté quand on est une snowboardeuse en snowboard cross? Cette année, qu'est-ce qui vous a particulièrement posé problème, mis des bâtons dans les roues dans votre progression et par rapport à ce que vous vouliez faire et mettre en place sur la piste?
Et comme dirait mes coachs, j'avais tous les outils et les aspects techniques, physiques pour aller gagner les étapes. Mais en fait, mentalement, ça se joue à pas grand-chose. Et je commence la saison avec une victoire. Donc oui, ça me met en confiance, je suis sereine, ça valide ma préparation. Je continue sur des bonnes étapes. Ensuite, j'enchaîne 3 mauvaises courses avec une très grosse chute ou avec un contact avec une autre fille. Et là, en fait, le fait d'enchaîner 3 courses moyennes, là, un peu tout s'écroule. Dans le sens où je me dis, ça se trouve, une fois encore, tu as fait tout ce chemin pour le globe de cristal, mais tu vas le louper à peu. Une fois encore, Chloé, tu vas faire deuxième, comme souvent dans ta carrière. Et donc là, en fait, soudainement, on est envahi par les doutes. Alors, je trouve que les doutes, parfois, c'est vraiment moteur. Ça permet de se remettre en question, d'avancer, de progresser. Mais parfois, on est face aussi à un doute où on croit un peu moins en nous. Et là, on est un peu moins performant que celle qui croit réellement en elle. Donc voilà, ça, il faut le régler rapidement parce que les courses, on en a 12. Donc si on en loupe trop, on perd des points au classement et ça fait mal. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui amènent du challenge dans l'hiver.
Vous parlez beaucoup de l'aspect mental de votre discipline et du sport de haut niveau en règle générale. Vous avez un préparateur mental qui vous aide au quotidien ou qui vous accompagne l'hiver pendant la saison de Coupe du Monde?
J'ai fait une grosse préparation mentale avant les JO 2022 pour vraiment les aborder avec plus de sérénité qu'en 2018, pour me débarrasser vraiment de cette peur de l'échec et essayer de croire un peu plus en mes capacités de gagner. Et en fait, j'ai vraiment choisi de faire une période intense de travail mental, mais pas de le continuer sur le long terme. J'avais envie de développer tous les outils, les apprendre sur cette période et après être totalement autonome sur ma gestion de problèmes. Donc, je suis plus accompagnée au quotidien, mais je pense que j'ai développé pas mal d'outils pour essayer de solutionner tous ces petits défis.
Alors, Chloé Trespech, un petit retour en arrière. Le grand public vous a découvert au JO de Sochi en 2014. Vous aviez à peine 20 ans et vous remportez une première médaille olympique, la médaille de bronze. Comment vous l'avez vécu, cette première médaille olympique et cette première médaille au JO?
Déjà, quand j'arrive en 2014 sur ces JO, je suis outsider. Je sais que je suis en capacité de faire une médaille, mais j'ai jamais fait de podium international. Donc j'ai fait des quatrièmes places, donc je suis pas loin, mais j'ai cette place confortable de découvrir la fougue de la jeunesse, l'envie, la passion. Donc ça se passe bien parce que j'ai cette médaille de bronze. Je suis un peu la surprise. Soudainement, il y a beaucoup d'attention autour de moi et j'étais pas prête à ça. Donc je pense qu'elle m'a un petit peu perturbée sur la saison d'après parce que je me suis mis une pression de vouloir la confirmer, de montrer que c'était pas du hasard. Donc ça a été un peu déstabilisant sur le coup après, mais ça reste un souvenir immense. Ma famille était sur place. Enfin, c'est des émotions énormes parce que les JO d'été arrivent prochainement. Le fait de représenter sa nation sur des Jeux Olympiques, c'est hyper fort, et de partager ça avec tous les athlètes qui ont travaillé hyper dur pour préparer cet événement, c'est quand même quelque chose de très spécial.
Et à l'inverse, 4 ans plus tard en Corée, cette fois vous arrivez un petit peu avec une pancarte. Vous êtes vice-championne du monde en titre, je crois. Médaillée 4 ans plus tôt. Et là, c'est la déception, vous finissez cinquième de la finale. J'ai regardé tout à l'heure une interview de vous chez nos confrères de France Télévisions juste après la course. Vraiment, on sent une immense déception chez vous. Vous veniez pour gagner le titre olympique en Corée.
Là, en fait, j'avais tout pour gagner. J'arrive en tant que favorite, je suis en forme, le matériel nickel, le staff nickel. Techniquement, je suis bien, je me suis prouvé que j'étais capable de gagner des courses. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'attentes envers moi parce que je me dis, là, c'est ta chance de devenir championne olympique, ne la loupe pas. Donc tout se passe bien au début, les qualifs, quart et demi-finale. Et en finale, je tombe juste avant la ligne d'arrivée, donc une frustration immense, l'impression d'avoir loupé ma chance, que peut-être ça se reproduira jamais. Donc je me dis 4 ans à travailler ce jour-là, 1 minute 30, mais 4 ans pour rien quasiment, donc je suis envahie par la frustration. Mais à la fois, c'est vraiment cet échec qui m'a permis de mettre plein de nouvelles choses en place pour préparer 2022 dans un autre état d'esprit, de retrouver le plaisir aussi et d'attaquer une préparation mentale aussi, parce que j'avais l'impression que j'en avais pas besoin jusque-là, la preuve que si. Et en fait, j'ai été vraiment envahie par la peur de l'échec en 2018 parce que justement j'avais trop d'attentes envers moi et j'ai eu du mal à me libérer. Et c'est ce que j'ai voulu éviter en 2022 et arriver en tant que favorite, mais libérée, sereine et moins focalisée uniquement sur le résultat.
Et vous avez cette phrase que vous venez de répéter, il va falloir attendre 4 ans. C'est aussi, ça fait partie de ces sports pas forcément les plus médiatisés où vous avez, pendant une journée, vous l'avez dit, ça dure que 24 heures, tous les projecteurs qui sont braqués sur vous et puis après ça disparaît en quelque sorte, même si aujourd'hui la Coupe du Monde de snowboard cross est diffusée sur la chaîne L'Équipe, je crois. En tout cas, vous avez une exposition médiatique un peu plus importante. Mais c'est vrai que ça doit être d'autant plus dur quand on sait qu'on a une seule chance en 4 ans et qu'il ne faut pas se louper. La pression, elle est monumentale.
Oui, c'est ça. La visibilité de nos sports, elle existe réellement pendant les JO. On sait que ça va faire prendre un tournant à notre carrière, même au niveau des partenaires, au niveau de notre reconversion. On sait que la médaille olympique, c'est universel. Ça rend légitime le sportif et ça donne de la visibilité à notre sport. Et ça, c'est vraiment un combat aussi que j'ai envie de mener, c'est de faire grandir le snowboard cross. Donc, en effet, tout ça fait qu'il y a énormément d'enjeux sur cette journée et que la prochaine chance est dans 4 ans. Donc, c'est très, très long.
Et 4 ans plus tard, à Pékin en 2022, donc il y a 2 ans. Cette fois, vous remontez sur le podium, médaille d'argent. Bon, vous grappez une place, j'imagine une fois de plus, grande fierté d'un aboutissement d'y être arrivé. Mais c'est la question que j'ai envie de vous poser. Bronze, argent, voilà, la prochaine, c'est l'or, non?
C'est l'objectif. C'était déjà l'objectif à Pékin. Mais sans regret, je me suis battue. Voilà, Aliense Jacobellis, celle qui a gagné, a été meilleure que moi. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente de la manière dont j'ai abordé l'événement. J'ai pris du plaisir et j'ai ramené cette médaille, une deuxième médaille olympique. C'est quand même vraiment fort. Donc ouais, maintenant, bien focus sur Milan. Plus que 2 ans, donc ça va aller vite. Et puis les JO d'été vont nous donner un peu d'énergie encore cet été. Et ouais, ça reste vraiment des beaux événements.
C'est le plus beau qu'on puisse vivre en tant que skieur ou snowboarder, enfin en tant que sportif des sports d'hiver, les Jeux Olympiques. Il n'y a pas plus par rapport au globe de cristal, au gros globe de cristal, un classement général, c'est incomparable.
Franchement, le globe de cristal, il a beaucoup, beaucoup de valeur cet hiver et c'est vraiment aussi le fonctionnement de toute une équipe et des décisions sur toute une saison. Donc, ça crée vraiment l'équipe, une équipe forte et de le partager aussi avec tous les autres athlètes. C'est aussi la force de notre groupe. On est hyper soudés, que ce soit avec les garçons, les filles. On vit cette aventure individuelle, mais ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est chouette à vivre. Les JO, après, c'est que toute la France le vit avec nous, donc c'est un peu moins confidentiel juste dans le snowboard cross. Donc ça donne une force, une énergie, une visibilité qui est énorme et qui est très chouette à vivre aussi.
Objectif 2026, vous le disiez, 4 ans plus tard, on parlait des Jeux à Paris dans quelques semaines, 4 ans plus tard, il y a des Jeux qui risquent d'être en France. Vous avez 30 ans, vous aurez 32 ans en 2026, 36 ans, un peu moins de 36 ans en 2030. Est-ce que vous vous voyez encore sur une planche en 2030?
Ben, on parlait de la force de l'expérience en début de l'émission, donc peut-être que je serai la grande rideuse d'expérience, mais c'est réellement trop tôt pour me projeter aussi loin. Voilà, il faut être sûr d'avoir la forme physique, l'envie, la performance. Donc je ferai un point après 2026 parce que si je vais aux Jeux Olympiques, c'est pas pour autre chose qu'essayer de gagner et être capable de gagner, même si parfois il y a meilleur que nous. Mais en tout cas, je veux pas y aller pour me balader. Donc on verra, on fera un état physique et forme, envie, mentale au bon moment.
Là, quand vous voyez vos collègues athlètes là, qui préparent les Jeux de Paris, j'imagine que ça fait quand même envie de vivre cette grande fête du sport à la maison.
Oui, complètement. C'est pour ça qu'il faudra se poser les bonnes questions et pas se laisser influencer par l'envie de courir à la maison. Mais oui, c'est sûr que ça donne une énergie, une force énorme. Tout le pays est impliqué dans l'événement. Donc c'est sûr que ça fait envie. En plus, c'est un événement qui a du sens avec des infrastructures qui sont déjà existantes, avec vraiment une culture du ski et qui est déjà développée dans le pays, avec des beaux sites de compétition. Donc tout ça fait que dans tous les cas, en tant que participante ou spectatrice, ce sera un bel événement.
Une des dernières questions que j'avais envie de vous poser, Chloé Trespeuche, au mois d'avril, quand on est snowboardeuse, quand on fait des sports d'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Vous en êtes où là dans votre saison? Vous êtes en vacances? Vous coupez complètement? Vous avez quand même une activité physique régulière?
Alors avril, c'est le mois de vacances. Donc on fait vraiment ce qu'on a envie. On a très peu de séances à suivre. Donc c'est le moment de faire aussi toutes les sollicitations avec les partenaires, de les remercier pour le soutien parce qu'on a un sport individuel, donc on vit vraiment grâce à nos partenaires. Donc c'est aussi le temps de faire quelques conférences, de voir la famille et puis de faire du sport plaisir. Donc un peu de glisse à Val Thorens évidemment et un peu de tout, de tennis avec les copains. C'est le mois du plaisir.
Et la reprise, c'est pour quand? Et quel est le calendrier un petit peu de la reprise? Quand est-ce que vous allez remonter sur un snowboard?
Alors en mai, habituellement, on reprend sur les glaciers aux Deux Alpes. Val Thorens ferme le 4-5 mai, donc ça permet de reprendre aussi un petit peu à la maison. Et juin, pareil, entraînement soit sur les glaciers, soit en préparation physique. Juillet, août, préparation physique du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. On a nos week-ends de libre. Et en septembre, on part souvent en Amérique du Sud pour aller chercher la neige et commencer à préparer activement la saison qui reprend en décembre.
Donc vous ridez quasiment 9 ou 10 mois sur 12 en fait avec les glaciers, en jouant sur les hémisphères, vous arrivez à être sur votre planche 10 mois sur 12 quasiment.
Ouais, 9 mois au moins, oui, c'est sûr.
D'accord. Et l'objectif l'année prochaine, alors 2025, un an avant les Jeux, c'est de conserver ce gros globe de cristal ?
Oui, je pense qu'on ne se lasse pas de cette quête de globe, donc aller en chercher un deuxième, tout mettre en place pour être performante et jouer la régularité comme cette année, c'est sûr que ça me fait vraiment beaucoup envie.
Merci beaucoup Chloé Trespeuche. Vous étiez l'invité du studio des Légendes avec Jacques Vendroux ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là Chloé Trespeuche, on le rappelle, vainqueur du gros globe de cristal cette année, double médaillée olympique, et bon courage pour vos futurs projets et futures compétitions.
Merci pour l'invitation.
Le studio des Légendes, 20h-21h, avec la réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé, avec en ordre d'apparition à l'antenne Cyril de la Moridrie, Éric Borghini, Robert Pires, Océane Daniel, Alexandre Guingamp, Antoine Motion, Maxime Erignoux, Fabien Safanjon, c'est bien ça, de l'UNFP, Marjorie Mayence de Canal+, Martin Lange bien sûr, et Chloé Trespeuche. Merci à tous. En tous les cas, rendez-vous demain, n'oubliez pas, demain 20h-21h, Alain Giresse se confie dans le studio des Légendes. À suivre sur Europe 1 et Joe, votre émission musicale, présentée évidemment par Joe Hume. Et tous les samedis de 13h à 14h sur Europe 1, Isabelle Morizet fait tomber le masque et révèle aux auditeurs d'Europe 1 les mille et une facettes de la vie de son invité. Et demain, elle recueille les confidences de Guillaume Rocheron, l'un des plus grands spécialistes des effets spéciaux aux États-Unis. Il est français et il a déjà reçu 2 Oscars. Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, vous le savez, vous êtes sûr, c'est une très très grande famille.
Oh. Europe 1, il est 21h. Et tout de suite, on retrouve Cédric Chasseur pour faire le point sur l'actualité. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Joe, bonsoir à tous. Les évacuations ont commencé.